Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 1985. Au menu, la télévision française qui innove, le stade du Wesel, théâtre d'un drame humain, la française idéale qui existe, figurez-vous, et Simone Signoret qui s'éteint à 64 ans seulement.
1985, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1985, la télévision française innove. TF1 lance un nouveau jeu, Anagramme. TF1 décide de confier l'animation de ce jeu à des acteurs. Le premier à en prendre les commandes est Michel Constantin. Et 6 mois après, c'est Daniel Prévost qui prend le relais.
Je revendique le droit à la différence. Dans notre série, si c'est pas malheureux de voir ça à la télé, on sait même plus où sont les rubriques. Tout est chamboulé à cause de cet imbécile qui a l'air tellement content de lui. Tiens, je vais écrire à la télé pour qu'on le vire. Voici Anagramme.
On le voit tous les jours présenter l'émission avec une poêle à frire sur la tête, une banane dans l'oreille, ou simplement vêtu d'un blouson en cuir, ouvert sur son torse, tatoué.
Le deuxième orthogramme, qu'est-ce qu'un labadince? Qu'est-ce qu'un labadince? C'est encore un mot masculin et c'est soit, je vous préviens, si vous ne répondez pas, je vous torture. C'est soit une insulte, un lavabo gaulois, un récipient, un camarade de collège ou une liqueur de collège. Ça ne veut rien dire.
Et cette fois, c'est Yvette et Jean qui répondent.
Cette fois, voilà, Sabine vient dire le mot juste. C'est cette Yvette fois. Et Jean qui répondront. Qui répondra. Qui répondru. Allons-y.
Qui
répondra. Allons-y, mesdames et messieurs.
Un camarade.
Un camarade de collège, vous dites oui. Un labadins. Tiens, bizarre. Vous, Eva.
Allez.
On y va pour un récipient.
Un récipient. Oui. Un récipient, vous avez dit. Il a tort. C'était un camarade de collège, bravo. Ils ont gagné. Je pense que tout de suite, nous pouvons rappeler le score, s'il vous plaît. Parce qu'on m'avait demandé, j'ai reçu une note de la direction de TF1, vous ne rappelez jamais les scores.
Au cours de l'été 1985, plusieurs personnalités prennent comme ça les commandes du jeu. Gérard Klein, Annie Cordy ou encore Claude Pieplus. Et la dernière diffusion d'Anagramme a lieu le 20 décembre 1985. Cette même année 85, une nouvelle émission voit le jour à la télé sur Antenne 2, son titre Télématin. C'est la première fois que la télévision publique exploite la tranche horaire matinale. Et aux commandes de ce programme quotidien, un jeune journaliste de 38 ans, William Lémerger.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Je veux dire par là, j'espère que vous avez bien dormi. De toute façon, que vous ayez bien dormi ou pas, vous êtes les bienvenus. À partir de maintenant, on s'occupe de tout. Oui, enfin, presque tout. Vous savez que quand on commence une émission de radio ou de télévision, on a l'habitude de se choisir un parrain ou une marraine ou un filleul. Eh bien, nous n'allons pas à faillir à la tradition. Et plutôt que de vous parler de ce qui va devenir maintenant une personnalité, je veux dire par là le parrain ou la marraine ou le filleul, le plus simple est de vous le présenter. Figurez-vous que nous avons recueilli une interview exclusive très tôt ce matin. La voici.
Et ce parrain est un nourrisson né quelques heures plus tôt.
C'est le bébé de Télématin, c'est tout un symbole, vous l'avez deviné. Il s'appelle Victor, il va très bien, il est un petit peu plus âgé que nous. Il est né vers 2h du matin dans la proche banlieue. Il pèse 2,9 kg et il mesure 48,5 cm. Longue vie à Victor et longue vie à Télématin.
En souhaitant longue vie à Télématin ce 10 janvier 1985, Lémerger ne sait pas encore à quel point l'avenir va lui donner raison. En 1985, on fête aussi les 10 ans de l'émission Apostrophe sur Antenne 2, émission littéraire de Bernard Pivot, qui est le rendez-vous culturel le plus suivi de la télé. D'autant que certains vendredis, les écrivains n'hésitent pas à s'invectiver en direct. Comme ce 15 février 1985, quand le très droitier journaliste Marc-Édouard Nab est pris à partie.
Qui a dit que je ne connaissais pas la vie? Qui dit ça?
C'est évident, vous êtes habillé en tenue des années 40.
Voilà le racisme.
Vous êtes 40 ans en arrière.
Voilà le caractère. Vous êtes 40 ans en avant, oui. Peut-être.
Non, pas du tout, mais votre livre est absolument insensé de conneries. Quoi.
Alors, quelle question posez-vous?
C'est assez ignoble, parce que je peux continuer l'hésitation.
Oui, mais non, mais alors pourquoi c'est insensé de conneries?
Je vais vous lire.
Il faut faire des...
Si on me laisse pas répondre,
les Juifs, c'est la race que Dieu a choisie pour souffrir, celle qui a la chair de Christ dans son coffre-fort,
ou dans son petit porte-monnaie pourri. Moi, quand je lis une phrase comme ça, je suis assez inquiet.
Dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien simplement. Je vomis la terre entière dans ce livre. Il n'y a pas de raison que les juifs soient exclus de ma gerbe d'or.
En 10 ans, l'émission est devenue une institution. Jean Edernalier fait partie des écrivains régulièrement invités par Pivot.
Apostrophe, c'est un salon, c'est un peu au fond un salon littéraire, n'est-ce pas ? Le Pivot, c'est la princesse Eugénie, si je puis dire, du petit personnel littéraire et parfois de quelques grands écrivains qui passent par là, les Balzac modernes. Mais le genre veut que... Il y a des gens qui sont, à la différence des salons du 19e ou du 18e, qui ne sont pas du même monde et qu'on trouve à la même table des grands écrivains et des imposteurs cachés derrière les livres qu'ils n'ont pas écrits pour juger de la morale universelle. C'est une émission à la fois magnifique et superbement confuse.
Vous êtes passé combien de fois, vous, Apostrophe ?
Je sais pas, 6, 7, 8, 9 fois. J'ai parfois été très très en forme et parfois je l'étais pas du tout, n'est-ce pas ? Ça dépendait du nombre de vodka, je crois, que j'avais bu avant d'y aller. Pivot, l'Apostrophe, c'est merveilleux.
En 1985, la télévision française compte 4 chaînes. TF1, Antenne 2, FR3 et Canal+. Mais une cinquième s'apprête à voir le jour. La 5, qui est une idée de l'Italien Silvio Berlusconi. Et ça, ça plaît pas à tout le monde. Certains craignent une télé Coca-Cola.
Je n'ai pas amené ni un Coca-Cola, ni de spaghetti. Je voulais le faire. Hein. Je suis un homme de télévision, il faut faire des coups de théâtre, certaines fois. C'est une chose terrible de prendre des spaghettis avec des coca. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des spaghettis avec du Beaujolais. Alors c'est ça, la télévision à laquelle nous sommes en train, nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi.
Europe 1. On de la traconte. L'année 1985.
C'est le Toulousain Jean-Pierre Madère avec Macumba en 1985.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 29 mai 1985 à Bruxelles, au stade du Wesel, les joueurs de Liverpool s'apprêtent à affronter ceux de la Juventus de Turin de Michel Platini. On est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais 45 minutes avant le coup d'envoi, la soirée bascule dans l'horreur.
Tout a commencé vers 19h20, environ 19h15, 19h20. On a vu subitement tout un quart de virage, le quart de virage rouge, le quart de virage des Reds de Liverpool, des supporters de Liverpool, qui s'est mis à bombarder avec des bombes lacrymogènes, des fusées, des pétards. Tous ces supporters de Liverpool se sont mis à bombarder les supporters italiens de la Juventus qui étaient près d'eux dans l'autre quart de virage. Et puis ça a été l'invasion comme une horde sauvage. Tous ces supporters britanniques se sont jetés ont passé par-dessus la barrière de séparation qui tranchait, qui se trouvait dans le prolongement vertical de la tribune, des virages, des gradins, et ils se sont précipités pour envahir et repousser les Italiens. Il y a eu donc une peur panique de la part des supporters italiens qui se sont enfuis. À ce moment-là, il n'y avait, il faut bien le dire, pas de force de police dans les gradins ni à proximité des gradins, ce qui fait que les supporters italiens qui se trouvaient les plus mal placés, ceux qui étaient au fond du groupe de la tribune, eh bien se sont trouvés complètement pressés, complètement acculés contre le mur de béton de la tribune centrale. Et comme la poussée venait du haut des tribunes, certains se sont trouvés complètement coincés également sur le bas contre les grillages de sécurité et contre les barrières de béton.
La police belge, pas du tout préparée à gérer une telle bousculade, est totalement impuissante. Elle ne peut que constater l'ampleur du drame. 39 personnes ont perdu la vie en tribune. Tous ou presque sont des supporters de la Juventus. On compte également des centaines de blessés.
Guerre, scène de guerre,
scène de guerre, des choses d'autre monde.
Il popolo italiano è un popolo civile, un popolo educato.
Le peuple italien est un peuple éduqué, est un peuple civique.
Non abbiamo reagito, potevamo picchiarli, schiacciarli, ci siamo lasciati schiacciare.
Nous n'avons pas réagi, nous aurions pu répliquer, mais nous n'avons pas répliqué.
14 morti ci sono. Perché questo? Perché una partita di calcio trasformata in guerra?
14 morts, 14 morts, et il en oublie le pauvre parce qu'il y en a 36 finalement. Pourquoi c'est du football, c'est pas la guerre?
La polizia non è intervenuta, perché la polizia non ha diviso i settori? Perché questo? Non ci hanno tutelato, non ci hanno...
Pourquoi la police n'est pas intervenue? Pourquoi la police a laissé faire tout cela?
Mais alors que le bilan humain est dramatique, l'UEFA annonce que le match aura lieu. À la stupéfaction générale. Raison à invoquer, la sécurité.
D'abord une nouvelle, la toute première des nouvelles, on va jouer ce match. Ça vous paraît peut-être à Paris et les auditeurs, je le sais, qui ont appelé, tout cela va paraître paradoxal, va paraître énorme, mais c'est pour des raisons de sécurité, estime le bourgmestre de Bruxelles et le ministre de l'Intérieur de la Belgique. Ils estiment que pour des mesures de sécurité, on va tout de même jouer ce match. Alors vous imaginez dans quelles conditions les joueurs des deux camps vont aborder cette finale de la Coupe d'Europe. En tous les cas, les supporters de Liverpool sont tous encore dans leur tribune qui a été largement agrandie et qui est ceinturée par un cordon de policiers.
Le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo, comprend la décision.
Il est impensable que le match n'ait pas lieu. Il faut d'abord qu'il y ait la sécurité pour les joueurs. Les joueurs de la Juventus ne veulent pas rentrer sur le terrain parce qu'ils ne sont pas protégés. Mais je crois qu'on va faire appel à l'armée. Il faut qu'il y ait un grand nombre de militaires et de police pour que le match puisse se dérouler, parce que sinon les spectateurs qui ne connaissent pas la tragédie vont déferler en ville, vont tout casser s'il n'y a pas de match. Alors il y a cette décision très difficile à prendre. On ne peut pas penser que dans les têtes maintenant il y a encore question de victoire ou de défaite. C'est la défaite de tous, c'est la défaite du football, c'est peut-être la condamnation de la Coupe d'Europe dans sa forme actuelle, ou la condamnation des clubs anglais.
Sauf que les joueurs de la Juve refuse de fouler la pelouse, à une exception, celle du meneur de jeu, Michel Platini.
Jean-Yves Dermaouezel sur Europe 1.
Oui, pour des informations maintenant sur le match proprement dit, les joueurs de la Juventus de Turin, les Italiens, les partenaires de Michel Platini ne veulent pas jouer ce match ce soir. Ils veulent, en signe de deuil devant la mort des 36 personnes, des 36 supporters italiens pour la plupart, ils refusent de jouer ce match ce soir. En revanche, les autorités belges veulent que le match ait lieu, ainsi que les forces de police qui s'y trouvent, les responsables des forces de police, car elles ont peur d'incidents très très graves. Si le match était annulé, le ministre belge de l'Intérieur est lui aussi d'accord. Il préfère lui aussi que ce match ait lieu pour éviter de nouvelles vagues de violence si les supporters de Liverpool se mettaient à tout casser parce que le match était annulé. Mais ça, c'est le vœu des autorités belges. Mais en revanche, je vous le dis, les joueurs de la Juventus de Turin, les coéquipiers de Michel Platini, refusent de jouer ce match en signe de deuil pour les 36 supporters morts lors des incidents, lors de la charge abominable des supporters anglais contre les supporters de la Juventus de Turin.
Contraints et forcés, les Italiens finissent par entrer sur le terrain. Ils ont le cœur lourd, mais ils remportent le match 1-0 sur un pénalty de Platini.
On a vraiment souffert dans les vestiaires avant le match, quand on est rentré sur le terrain, et puis après le match, quand on est rentré.
Vous avez été au courant avant ?
On a été au courant forcément, parce qu'on pensait ne pas jouer. Les supporters italiens ne voulaient pas qu'on joue parce que c'était répondu la voix que c'était les Anglais qui avaient commencé tout ça, alors qu'il faut voir un peu les causes. Alors nous, on nous tenait au courant parce qu'on ne pensait certainement pas jouer.
On a vu les joueurs de la Juventus sortir avant la rencontre et aller vers les supporters.
Oui, parce qu'on voulait les calmer, ils voulaient entrer sur le terrain, justement, ils voulaient avoir des représailles en fonction contre les supporters anglais, parce que je vous ai dit, la voix s'était répandue, que c'était eux qui avaient tué pas mal d'Italiens, et bon, ça on ne sait pas trop. Alors on a été les calmer parce que ça pouvait dégénérer. Et après, l'UEFA a pris la décision de jouer le match. Et après, bon, bah, on est rentré dans le match, on n'y a plus pensé, sauf quand on a commencé le coup d'envoi, on n'a plus pensé. Puis à la fin, vous avez vu qu'on était assez content de l'avoir gagné pour les supporters italiens qui l'attendent depuis très longtemps.
Michel Platini est content au point de célébrer son but d'une manière un peu trop voyante. Conséquence de ce drame, les clubs anglais sont bannis de toute compétition européenne pour 5 ans. Le club de Liverpool est écarté pour 6 ans. Et Coluche, cette année-là, se déchaîne sur les supporters en général.
Vous avez vu le match mercredi soir, la retransmission. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'action des supporters, comme on l'a dit?
C'est lamentable, quoi. Hein?
Vous qui fréquentez beaucoup les milieux généralement bien informés, comme vous dites, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir que l'on appartient toujours au monde civilisé?
Dans la limite de ce genre d'écart-là, oui, bien sûr, oui. Ah, on appartient toujours... Oui, j'ai 42 supporters de morts. 38. Ah bon, ça me fait plaisir pour les 4 qui sont ressuscités. Parce qu'il y en avait 42 avant-hier, alors ça change tout le temps. Je suis content pour les 4 mecs. Qu'est-ce que vous direz, les supporters, c'est pas non plus les plus malins qu'il y ait. Faut pas s'attendre à ce que ces mecs-là nous écrivent un livre après un match. Hein. C'est quand même des mecs, bon... C'est pas que des cons, mais enfin, il y en a 38 de moins, quoi, dont deux Belges. C'est pas une catastrophe non plus, hein, c'est pas...
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
Britannique de Simple Minds avec Don't You en 1985.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En juillet 1985, les Scouts de France organisent dans les Yvelines leur premier jamboré. Dans le jargon scout, un jamboré, c'est un rassemblement de scouts de toute la France et au-delà. 15 000 scouts répondent à l'appel de ce premier jamboré.
Jamboré comme celui-ci n'a jamais existé chez les scouts de France. Et je crois que c'est important pour des jeunes, ils se souviendront toute leur vie, je crois, de ce jamboré. Je crois que c'est l'occasion unique que des jeunes puissent s'exprimer.
Et alors vous attendez donc combien de jeunes?
Ah là, il y a 15 000 scouts qui sont arrivés. Alors il y a des personnalités qui arriveront lundi à la clôture, M. Calma, le ministre Jeunesse et Sport, et M. Delebarre, ministre du Travail.
Qu'est-ce qui va se passer pendant 3 jours?
Alors d'abord, le premier temps va être l'installation du camp, c'est ce qui se passe actuellement. Et puis ensuite, la deuxième journée va être un temps de foire aux activités. Les jeunes vont fabriquer des objets, vont partir avec du concret. Ce sera également un grand jeu pour les 15 000 scouts de France. Et le lundi, ça va être l'envoi. Hein, c'est ça le jamboré. On repart chez nous en éclaireur de paix.
Qu'est-ce que ça nécessite comme moyens financiers et puis matériels?
C'est sûr qu'il y a des chiffres assez impressionnants. Voilà, je sais pas. Moi, il y a 7 500 poulets qui vont être manger lors d'un repas. Il va y avoir 6,75 km de pain mis bout à bout, ça représente à peu près ça. Il y a des semi-remorques pour la nourriture. Comme Jamboré National, c'est la première fois que nous réalisons ce type de rassemblement.
Ce Jamboré est une marée de chemises bleues. Et c'est la plus belle publicité pour un mouvement qui est en train de revenir à la mode.
Après 1968, les scouts étaient ringards, mais en 1985, ils s'affirment sans complexe entre tradition et modernité. Aujourd'hui, les scouts de France sont décontractés, sans frontières. Ils participent par exemple à des chantiers de développement en Afrique. Alors, Youkaïdi, Youkaïda, que reste-t-il des scouts d'autrefois ?
La BA, ça existe encore ? La BA, vous savez pas ce que c'est ?
Non.
La BA, peut-être pas sur le terme BA, mais ça existe toujours.
De quelle façon ?
Ça existe quand on fait un camp, aller aider les fermiers autour.
Et construire pour soi-même et pour les autres. Ici, la chapelle qui réunira dans la prière les participants au Jamboree. Les scouts de France pratiquent un catholicisme décontracté, ouvert mais authentique. Une étude du Centre des vocations révèle en effet qu'un tiers des jeunes se destinant au sacerdoce affirment avoir découvert sa vocation aux scouts de France.
D'accord. Mais quand même, de là à conclure qu'en 1985, les scouts de France sont un prélude au séminaire, faut pas pousser mémé dans les orties.
On essaye toujours de suivre Dieu.
C'est un loisir.
Alors qu'est-ce qu'on vous dit de ne pas faire, par exemple ?
Non, c'est un peu libre, on peut faire à peu près ce qu'on veut, sauf pas des conneries, quoi.
On vous permet de fumer ou pas ?
Non, ni de boire.
J'ai essayé plusieurs fois, mais interdiction formelle.
Et est-ce qu'ils sont sages au moins, les chefs ?
Ils font tout ce qui est interdit, ils fument, ils boivent,
ils tapent les scouts.
Et les louvettes, qu'est-ce qu'elles font ici ?
Alors là, c'est pas mixte chez nous. Malheureusement, le curé, il en ferait une tête, tombant dans les pommes.
On ferait quoi alors ? Il faudrait qu'il y ait des scoutesses ?
Ouais.
La volonté pour qu'on ait le choix.
Deux pour chacun, ce serait bien.
Mix dans les tentes. Dites ça, monsieur le curé. Pourquoi il a créé Adam et Ève ?
Pourquoi les chefs, ils auraient le droit et pas nous ?
Et qu'est-ce qu'il vous dit le curé quand il passe à côté de vous ?
Il parle des problèmes d'autrefois.
Il connaît rien. Des fois, à la messe, il parle des femmes. Il dit la vie est constituée d'hommes et de femmes, mais pas de scouts et de scoutesses, quoi.
Quatre mois plus tard, en novembre 1985, les scouts se retrouvent à la une au cinéma. Avec Scout Toujours, dans lequel Gérard Jugnot incarne un chef scout débutant qui a bien du mal à affirmer son autorité sur une troupe turbulente.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Faut pas vous laisser impressionner parce que vous êtes chef de district. Je suis votre chef, c'est vrai, mais je veux aussi être votre copain. Figé ? Je crois que je vais savoir les prendre.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1985.
Les Américains de Kool & The Gang avec leur titre fraîche.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1985, le magazine 7 jours Madame décide de partir à la recherche de la Française idéale. Il lance un appel et les lectrices sont incitées à participer à ce grand concours. Quelques semaines plus tard, la rédaction est fière de présenter leurs élus à toute la France.
Elle a deux enfants, elle a une passion pour la moto, elle est mariée et elle est institutrice. Eh bien voilà, c'est le portrait robot de la Française idéale, incarnée par cette jeune femme, regardez-la, Pascale Joran. Pascale Joran, la Française idéale qui vient de remporter le concours de notre confrère 7 jours Madame. Alors bien sûr, nous sommes allés à sa rencontre et Catherine Nel, notre reporter idéale, nous la présente.
Et oui, elle existe, elle s'appelle Pascale Joran, mesure 1m70, a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle est celle que les Français voudraient avoir pour femme.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir à la première page d'un journal ?
Ça me fait énormément plaisir, ça m'a surpris, maintenant j'ai le plaisir.
Et comme cadeau, Pascale Joran reçoit un caddie d'une valeur de 500 francs et un voyage aux Baléares. Elle est aussi invitée à s'exprimer dans les médias.
Personnellement, je me trouve active, je suis souriante, énergique quand il le faut. Moi, j'aurais dit la Française type de 1985. Pour moi, c'est ça, hein, c'est cette femme active qui travaille. Hein.
Est-ce que vous attachez de l'importance à votre beauté ?
Oui, quand même, oui, bien sûr. Je fais quand même attention à moi, je prends le temps de me maquiller tous les jours, légèrement.
Parce que votre budget beauté est plutôt faible, 50 francs par mois, ça n'est pas énorme ?
Non, c'est-à-dire j'ai une coupe de cheveux très simple, je mets du mascara sur les yeux, un petit coup de crayon, du rose à joues. J'ai l'impression d'être maquillée, voyez-vous. J'espère d'ailleurs que je ne ressemble pas à votre peinture.
Mais en tout cas, vous ne voulez pas être comparée à la Miss France ?
Absolument
ou à une Miss quelque chose ?
Non, de toute façon, du point de vue physique, je ne pense pas que je m'approche d'une Miss. Hein.
Vous avez des plaisirs simples, quels sont-ils ?
J'aime cuisiner, sinon je fais aussi de la tapisserie en regardant la télévision, des petits canevas pour décorer la chambre des enfants. Je fais aussi de la moto avec mon mari. J'ai mon côté garçon manqué pour la moto, bien sûr. Mais sinon, je reste féminine et puis je veux rester féminine. Hein.
En 1985, comme tous les ans, un autre concours fait fureur, le concours Miss France. Le 27 décembre, c'est une Parisienne de 17 ans qui remporte le titre. Elle s'appelle Valérie Pascal.
Alors, je crois qu'on peut vous demander votre âge.
J'ai 17 ans.
Et que faites-vous ?
Je suis étudiante, mais je suis également comédienne.
Ah, donc une grande carrière s'ouvre devant vous.
J'espère, disons que j'ai commencé cette carrière alors que j'étais très jeune et j'ai participé à plusieurs tournages, au cinéma, à la télé, également à deux pièces de théâtre. Et j'espère pouvoir continuer dans cette voie.
Un an plus tôt, Valérie avait déjà remporté la couronne de Miss Paris comme sa mère avant elle, mais dans les années 50.
Moi j'avais été Miss Paris et après tout pourquoi pas et... Bon, j'ai un petit peu poussé, c'est vrai, Valérie, à se présenter pour être Miss Paris, comme ça, pour...
Ne sait pas du tout encore ce qui lui arrive. Elle va petit à petit s'en apercevoir. Effectivement, représenter la France, c'est une chose très, très importante. Mais hier soir, je me suis, moi, beaucoup plus rendu compte, en tant que mère, quand on est mère, on voit les choses... Disons que maintenant, je sais ce que ma mère a pu ressentir quand j'ai été élue Miss Paris. Moi-même, à l'époque, ça m'arrivait comme ça, c'était merveilleux, comme hier soir pour elle, merveilleux. Mais je pense qu'effectivement, son enfance qui lui arrive, on le vit au centuple, doublement. On participe encore plus, j'étais en moi et en elle. Enfin, c'est difficile.
Si la mère de Valérie est heureuse pour sa fille, sa grand-mère l'est aussi. Remporter un titre de Miss France offre, pense-t-elle, des perspectives.
Elle prend quand même conscience que c'est un titre et puis que c'est quelque chose de merveilleux d'une part et puis d'autre part que ça peut apporter des débouchés. C'est aussi important.
Vous pensez à quel débouché pour votre petite fille ?
Les relations.
Valérie Pascal sera tour à tour speakerine puis animatrice sur différentes chaînes de télévision.
L'amour en fuite, c'est le film de François Truffaut, tourné en 1978, que nous vous proposons à 20h30. Une suite de plus à l'itinéraire sentimental d'Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud, le héros chéri de François Truffaut. Il est entouré de Claude Jade, Marie-France Pizier et Dorothée. À 22h05, ce sera la dernière édition de Soir 3.
Après le sacre de Valérie, les Miss France auront droit à des élections en direct à la télévision.
1985, on de la traconte sur Europe 1.
Mélissa Métis se dit bi, sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière, c'est Canis, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en zoom en gros plan. Tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa Métis se dit bissa, à ses seins tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ça me tue. Descendez, ça c'est défendu, maté chez les gens. Elle crie mais bien entendu, y a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police s'est tout dévendu, disant qu'elle attend. Mélissa Métis se dit bissa, a toujours sa vertu. Dites jamais que où Mélissa me tue. Ah, maté ma métisse. Ah, ma métisse est nue. Ah, maté ma métisse. Ah, ma métisse est nue.
C'est Julien Clerc avec Mélissa en 85. Beaucoup de filles nées cette année-là seront prénommées Mélissa.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 30 septembre 1985 au matin, on apprend la disparition de Simone Signoret. À l'âge de 64 ans, la comédienne a succombé à un cancer.
C'est vrai ? Oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a de cancer ? Mais on sait pas de quoi ? Oh, c'est affreux. Hein. Je crois qu'on perd une de nos plus grandes comédiennes. Hein. Vraiment. Hein. C'est une comédienne extraordinaire. Elle était... Franchement, hein. Je crois que c'était une grande perte pour nous.
Hein. Je vois que ça vous fait de la peine.
Ah oui, ça me fait de la peine. Comme si c'était quelqu'un que je connaissais bien. Quelqu'un presque de ma famille, je sais pas. Mais ça me touche énormément. J'avais beaucoup d'admiration pour cette femme.
Madame. Oh, j'ai failli me trouver mal. Ça m'a fait un choc parce que vraiment, c'était quelqu'un...
Moi, je tremble c'était tellement.
Sensible. Et puis c'était un couple avec Yves Montand, c'était quelque chose qui ne devait pas se dissocier. Oui.
Ah, je vous vois vraiment choquée par sa mort.
Ah oui, c'était une grande dame, absolument.
Pardon. Elle fait partie de notre existence.
Sur Europe 1, le ministre de la Culture, Jack Lang, sollicité à chaque décès, salue la comédienne, mais également la militante engagée.
La disparition de Simone Signoret est un lundi noir pour le cinéma français. Tour à tour, jeune première éblouissante, femme épanouie, grande dame de l'écran, c'est toute l'histoire de notre cinéma d'après-guerre que traverse la figure émouvante de Simone Signoret. Au cinéma comme dans le monde réel, Simone Signoret fut dans tous les combats à l'avant-garde, militante inlassable en faveur des droits de l'homme sous tous les régimes et tous les horizons. La foi l'a portée, la foi dans ses idéaux de liberté et de progrès.
Au micro de Béatrice Schoenberg, Alain Delon, très ami avec la comédienne, a une pensée très émue pour sa famille, son mari, Yves Montand, et sa fille, Catherine Allégret.
Je crois que ma première pensée, si vous voulez, va d'abord à Yves Montand, que je voudrais m'assurer de ma grande affection, de ma tendresse et ma fraternité, et puis à Catherine Allégret, sa fille. Et puis après, je pense à Simone. J'ai eu la chance de la rencontrer, de la connaître il y a très très longtemps. J'ai débuté ma carrière à ses côtés il y a de cela 25 ans, lorsque j'étais reçu à Auteuil avec elle et Yves, du temps de Jacques Becker. Elle m'avait pris en affection et de l'amitié, elle me l'a témoigné toute sa vie.
Alain Delon, habituellement très réservé, se souvient alors avec émotion des moments où Simone et lui ont partagé l'affiche.
Nous avons fait deux films ensemble qui pour moi sont des souvenirs impérissables. Un était Les Granges Brûlées, l'autre La Veuve Coudert. On travaillait avec Simone formidablement bien parce que c'était une très très grande professionnelle et il y avait un respect mutuel, si vous voulez, de deux comédiens qui s'affrontent et qui s'opposent. Et on ne jouait pas avec Simone, je veux dire, on vivait, c'est ça qui était exceptionnel. Et je veux dire, ça, il en ressortait une très grande facilité parce que c'était formidable de vivre avec elle et de vivre à ses côtés et de vivre avec elle devant une caméra.
Il faut dire que Simone Signoret était une immense comédienne, célébrée y compris aux États-Unis. Elle a été la première française à décrocher l'Oscar de la meilleure actrice en 1960.
C'est extraordinaire, j'ai passé la journée la plus extraordinaire et la plus épouvantable de ma vie parce que c'est une tension nerveuse. Moi, je vous envoie tous bien fort et je suis très contente et on est très fiers parce qu'en plus de ça, c'est
Malgré les récompenses et les honneurs, ce qui importait le plus à Simone, c'était de ne jamais décevoir ses proches et son public.
Je fais que ce qui m'amuse, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai aucun rêve de survivance après ma disparition. J'ai pas, je me fous de laisser des traces ou pas. Il se trouve que le cinéma laisse des traces jusqu'au moment où la pellicule tombe en poussière. Hein. C'est pas, on n'a pas encore trouvé le truc là pour que ça dure éternellement. Mais mon approche de la vie, c'est pas du tout ça. Je sais que je n'aurai pas à rougir de moi et que les gens qui m'aiment n'auront pas à rougir de moi. C'est tout ce que je peux dire. C'est le seul critère que je reconnaisse pour guider mes choix. Je peux décevoir, je peux faire des choses que les gens aiment plus ou moins, je peux faire des erreurs, mais je ne peux pas faire quelque chose à propos de quoi on pourra me dire comment tu as osé faire une chose pareille.
1985, On de la raconte sur Europe 1.
Phil Collins avec One More Night en 1985. Et comme c'est le dernier épisode, c'est l'heure des remerciements. Guillaume Vassaud, François Desmoulins, Julien Pichenet, Claire Dutronc et Valérie Inizan forment la petite équipe qui m'aide à préparer cette émission. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrés à l'année 1985. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.